Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 62e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'elles soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musicales et techniques. On l'a vu dans les épisodes précédents, le punk n'est pas un style qui passe à la radio et arrive dans les top pop. Mais en 91, un groupe changera tout, c'est Nirvana. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Là, on est toujours dans les années 80. Souvenez-vous, j'ai terminé l'épisode précédent sur le thrash metal en introduisant le grunge, le côté metal du grunge. Mais le côté que représentera Nirvana sera plus issu du punk. Mais bref, je fais des raccourcis, on approfondira plus le sujet quand on sera dans les années 90. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un groupe qui, à lui tout seul ou presque, a ouvert la porte à toute cette vague rock alternative des années 90. Un groupe cité par la grande majorité des artistes de cette mouvance alternative, ce groupe, c'est Husker Du. Fondé à Minneapolis, le groupe tient son nom d'un jeu de société danois dont le guitariste et compositeur Bob Mould se souvenait de son enfance. Ironiquement, car le jeu est un jeu de mémoire et son nom se traduit par « Te souviens-tu ?». Il commence comme un groupe underground de punk hardcore sous le nom de Body and the Returnables en 79. Il joue quelques shows ne faisant que des reprises accompagnées d'un claviériste, Charlie Pine. Mais dans son dos, il commence à répéter des compos originales inspirées des Ramones. La première performance officielle d'Husker Du sera le 30 mars 79, quand après quelques reprises, le groupe se met à jouer ses compos hyper rapides et Pine est très confus. Son clavier sera même débranché au milieu du show, scellant le fait que Skidoo est un trio avec le guitariste-chanteur Bob Mauds, le batteur-chanteur Grant Hart et Greg Norton, le bassiste. Poussé par peut-être un peu trop d'en fait, leur premier album live, Landspeed Records, sort en 82 avec 17 chansons compressées en 26 minutes 30 seulement. C'est horriblement rapide, mais avec juste assez de mélodie pour les démarquer des autres groupes de hardcore avec qui ils jouaient souvent. C'est un peu le groupe de punk hardcore dont on peut siffloter les airs. Leur premier album studio, Everything Falls Apart, sortira l'année suivante. Il est aussi rapide, avec le titre éponyme qui sera le seul moment de répit dedans. Ça, avec leur tournée incessante et leur réputation sur scène, leur décrochera un contrat chez SST, le label indépendant du guitariste de Black Flag et maison d'autres gros actes des 80s comme Minutemen ou plus tard Sonic Youth. La première sortie de Skidoo sur SST sera l'EP Metal Circus, qui contient leur premier hit sur les radios universitaires. Parce que ce genre de radio a grandement contribué à la prolifération du rock alternatif des années 80, pour la même raison que les radios associatives comme la nôtre sont importantes. À la fin des années 70, une règle tacite entre les étudiants qui géraient les radios universitaires est apparue. Ne pas trop jouer les hits commerciaux. Eux ne sont pas obligés de mettre en boucle les gros hits pop comme les radios commerciales. Ils peuvent donc jouer ce qu'elles veulent et faire découvrir la musique underground. Vous voyez, exactement comme nous, radio associative en France. Mais bref, ça a fait découvrir la musique européenne comme la synth-pop, le post-punk et l'indie, mais aussi le rock alterno américain, comme au hasard dans des petits groupes. R.E.M. Mais bref, ne digressons pas trop. Ces radios universitaires sont vraiment les précurseuses des radios alternatives des années 90. Et on peut dire qu'elles avaient porté au rang de hit une des chansons de l'album Metal Circus. C'est Diane. Plus lente et calme que le hardcore de leur début, la chanson raconte l'histoire vraie du meurtre de Diane Edwards, une serveuse, du point de vue de son meurtrier, inspiré par un article de presse que Grant Hart avait lu. Ce sujet morbide était un avancement de ce que les groupes de hardcore pouvaient aborder, plus seulement des trucs ouvertement politiques. C'était une nouvelle étape pour le hardcore, tout comme Eleanor Rigby l'a été pour les Beatles. Diane a fait connaître Husker Du dans tout le pays et même à l'international. Puis vient 1984, où ils sortent l'album qui sera considéré comme leur opus. Zen Arcade. C'est avec cet album qu'il passe véritablement du punk hardcore avec un petit peu de mélodie à quelque chose qui pourra vraiment être reconnu comme du rock alternatif. C'est toujours abrasif et lourd, mais c'est assez mélodieux pour être apprécié des gens en dehors des punks, même s'il reste des titres bien hard comme Broken Home, Broken Heart. Il y a aussi des sections piano, des interludes psychédéliques et des moments profondément émotionnels. La plupart écrits par Hart comme un des moments forts de l'album, Pink Turns to Blue. La dualité de la composition et de l'écriture est très flagrante sur cet album. Maud, plus énervé et impétueux, et Hart, plus intéressé par les mélodies pop. Un peu les Lennon-McCartney du punk des années 80. Et puis Zen Arcade est un album concept. C'est l'histoire d'un jeune punk qui s'enfuit de chez lui et qui se demande s'il va rejoindre l'armée, une secte ou trouver du travail dans le design de jeux vidéo. Sur la route, il rencontre puis perd l'amour avant de toucher le fond, réalisant qu'il ne pourra jamais changer sa situation. Puis se réveille, le tout n'ayant été qu'un rêve. Bien que ce ne soit pas le premier album concept punk, vu que c'est That's Life de Sham 69 qui doit probablement détenir ce titre, il a quand même poussé beaucoup de punks par la suite à en faire. Fucked Up, Titus Andronicus. Et si l'histoire de Zen Arcade vous dit quelque chose, c'est probablement car en 2004, Green Day en reprendront des éléments de American Idiot. We'll be right back. L'album sera cité dans des magazines, dans les tops, aux côtés de Bruce Springsteen ou Prince, donnant un énorme coup de projecteur sur eux, la Warner Bros, les remarquant également et allant peut-être les signer. Et Askedu commence à avoir des problèmes financiers avec SST. Ils font quand même encore deux albums avec eux, puis après des mois de flirt avec la Warner, ils signent en 86, juste à temps pour sortir Candy Apple ou Grey. Et grâce à ça, c'est leur premier album qui bénéficie d'un temps d'antenne considérable sur MTV, augmentant l'exposition du groupe à un nouveau public. Husker Du est un des premiers groupes de la scène indé de l'époque à signer chez une major, aidant à établir le college rock, le rock universitaire, comme une entreprise viable. Les Replacements ont été signés un an avant chez une major concurrente. Husker Du signe à son tour chez Warner Bros. Maintenant, toutes les majors cherchaient leur propre groupe indie à signer. La Warner encore chope R.E.M. en 88 pour la sortie de Green, un album à plus de 4 millions de ventes autour du monde. D'autres seront signés sur cette fin de décennie, Jane's Addiction, Faith No More ou encore Soundgarden. Et après avoir eu leur album Daydream Nation distribué sur Capitol, c'est le groupe No Wave Sonic Youth qui signe sur Geffen en 90 pour sortir Goo. Après une recommandation par le groupe, c'est Nirvana qui sera signé sur le label en 91 pour Nevermind. Sans Husker Du pavant le chemin pour tous ces autres groupes bougeant des labels indés, l'explosion grunge des années 90 n'aurait jamais eu lieu. Husker Du a su convaincre que le punk et la mélodie n'étaient pas antithétiques, ce qui amènera à la vague pop-punk des années 90 avec Green Day, Blink 182 ou The Offspring. Et enfin, comme Pete Shelley des Buzzcocks avant eux, Maud et Hart ont contribué à l'avancée sur les questions LGBT dans la scène. Étant respectivement gay et bi ouvertement, ils ont donné à beaucoup de jeunes punks une représentation au sein de la musique qu'ils aimaient. Et ils mettaient un point d'honneur à ne pas genrer les pronoms dans leurs chansons d'amour pour qu'elles soient universelles. Et la suite de l'histoire, c'est donc le grunge et le pop-punk. Donc, on continuera plus tard. Et oui, Subculture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 14h, le samedi 11h et le dimanche 21h sur Radio FM+, 91 MHZ, Canal 9C Montpellier Local en DAB+, sur Internet, sur le site radiofmplus.org via l'onglet Écoutez le direct, ou encore sur les applis mobiles, les radios associatives ou Radio Line. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode et tous les précédents toujours sur radiofmplus.org en podcast. Et moi, je vous dis à plus et don't forget, punk's not dead.
please don't drive your nails into this heart of mine. Oh, I can walk the bed of nails, grin and bear the pain. But some they cannot deal with all these things. And always sack. Breaks and washed away with pain, and then